Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Si la pluie nous tombe dessus, la tempête s'abattra sur eux. C'est l'adage qu'a repris ce matin le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, pour justifier les représailles d'Israël contre des positions iraniennes en Syrie. Cette nuit, l'armée israélienne a dénoncé des tirs de roquettes iraniens contre des positions israéliennes sur les hauteurs du Golan, tout près de la frontière avec la Syrie. Tsahal a répliqué et dit avoir frappé presque toutes les infrastructures iraniennes en Syrie, des bases militaires, des dépôts d'armes. Et le ministre israélien de la Défense a dit espérer ce matin que tout le monde avait compris le message, que les récentes violences entre Israël et l'Iran étaient terminées, précisant que son pays ne souhaitait pas une escalade de la situation. Avigdor Lieberman, qui a dénoncé une fois de plus le rôle déstabilisateur de Téhéran dans la région, en particulier le soutien de Téhéran au régime de Bachar al-Assad en Syrie. C'est également ce qu'avait reproché Donald Trump à l'Iran pour justifier la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. C'était il y a 24 heures maintenant. Une petite bombe diplomatique. Comment comprendre la stratégie américaine? L'analyse d'Éric Biegala.
C'est John Bolton qui a un peu explicité l'objectif poursuivi par l'administration Trump, et ce, quelques minutes après la sortie du président américain hier à la Maison-Blanche. Et cet objectif, c'est, dans les termes du tout nouveau conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, de se placer en position de force vis-à-vis de l'Iran, d'être en mesure de faire pression sur l'Iran. Et pour obtenir quoi? Eh bien très clairement, pour forcer Téhéran à rentrer dans une nouvelle négociation plus large, qui prendrait en compte non seulement son potentiel nucléaire, mais aussi ses capacités balistiques, comprenait son programme d'équipement de missiles à longue portée, ainsi que son engagement militaire ou paramilitaire dans les conflits de la région, en Irak, en Syrie, au Yémen ou au Liban. Alors bien sûr, ce n'est certainement pas avec l'administration Trump que Téhéran risque de prendre langue sur ces chapitres prochainement. En revanche, et John Bolton l'a clairement précisé hier, les Européens, et particulièrement les Français, pourraient bien relancer une négociation de ce type. D'ailleurs, de sources élyséennes à Paris, on indique que c'est précisément l'un des axes que compte suivre la présidence française. On indique que les Iraniens, particulièrement le président de la République, Hassan Rouhani, mais aussi son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, se sont tous deux dit prêts à entamer des discussions autour de ces sujets.
Effectivement, Emmanuel Macron répète que selon lui, l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas mort. 5 pays, dont la France, restent signataires du texte de Vienne, signé en 2015. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est attendu lundi à Londres, où il doit s'entretenir avec son homologue britannique Boris Johnson, avant de rencontrer ensuite avec le chef de la diplomatie allemande, le ministre des Affaires étrangères iranien. L'Iran dans les esprits aujourd'hui à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Le président français Emmanuel Macron doit recevoir le prix Charlemagne qui récompense l'engagement européen d'une personnalité politique. Emmanuel Macron a exhorté la chancelière allemande Angela Merkel de le suivre dans sa volonté de réformer l'Europe après le Brexit, mais aussi face à l'abandon croissant du multilatéralisme par Donald Trump. Le 10 mai, journée de commémoration des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions, mais des formes d'asservissement persistent en France. C'est ce que tient à rappeler le Comité contre l'esclavage moderne. L'association est à l'origine de plus de 250 procès en France en 20 ans. Elle a accompagné près de 700 victimes. Esclavage domestique, ateliers clandestins, mendicité forcée, des victimes invisibles, Lise Verbeck.
Au-delà de la prise de conscience des pouvoirs publics, il faut que l'opinion se réveille, alerte Sylvie Audy, la présidente du Comité contre l'esclavage moderne.
Ce qui est absolument pour moi frappant, c'est l'indifférence des gens. Il faut lutter contre l'indifférence. Il faut prévenir quand on voit une situation qui vous paraît anormale. Il faut quand même que les voisins, quand ils voient quelqu'un incroyablement maigre qui descend des poubelles et qui mange dans les poubelles, on peut quand même se poser une question. Quand on voit une petite jeune fille en plein hiver qui accompagne des enfants à l'école, qui a des tongs aux pieds, qui a même pas un pull, on peut quand même s'inquiéter. La question, c'est qu'il faut effectivement que ce phénomène soit connu, donc il faudrait une grande campagne nationale, que les gens agissent. Réagissent au moins.
D'après Sylvie Audy, il y a également un problème dans l'identification des victimes lors des enquêtes de police, car il est souvent difficile de recueillir des preuves. Quand elles sont reconnues comme telles, le comité les accompagne et pas uniquement devant la justice.
Il faut d'abord s'intéresser aux besoins primaires, l'hébergement, la santé psychologique. Et ensuite, il faut quand même que ces gens puissent avoir une formation, qu'ils apprennent le français, s'ils ne le connaissent pas, qu'ils puissent avoir des formations professionnelles, et aussi de leur donner une capacité à s'intégrer. Par exemple, une personne peut sortir d'une situation d'exploitation, n'a jamais pris le métro, n'a jamais marché seule dans la rue. Il faut leur donner des armes pour cette nouvelle vie. Moi, je me souviens très bien d'une jeune femme, dans la rue, elle ne voulait pas marcher à la même hauteur que moi. Elle marchait deux pas derrière, et elle voulait porter mon sac. Le premier travail, ça a été de lui expliquer que non, c'était pas comme ça. On marchait côte à côte et je portais mon sac.
Le comité contre l'esclavage moderne a aidé presque 700 victimes et a mené plus de 250 procès en 20 ans.
Qui sont ces esclaves modernes? Qui sont les exploiteurs? C'est un dossier à retrouver en une sur notre site franceculture.fr. Le temps de ce jeudi 10 mai, très nuageux sur une grande partie de l'Hexagone, particulièrement pluvieux sur la façade est du pays. Et les températures sont en baisse, comprises ce matin entre 7 et 13 degrés, jusqu'à 15 dans le sud-est et en plaine d'Alsace. Cet après-midi, comptez de 15 à 19 degrés, jusqu'à 25 près de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine de Mercier.